Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler d'une expérience d'utilisation d'une salle labellisée Learning Lab. Je dois dire que voilà, on part vraiment du terrain parce que je suis arrivé dans cette salle un petit peu par hasard et avec tous les accessoires que j'avais autour de moi, et les étudiants et moi, on se l'est approprié. Et on a pu finalement en faire quelque chose pour l'enseignement et pour accélérer le partage des connaissances. Voilà. Donc je vais vous parler. Donc je vais vous parler de. Donc j'interviens. Excusez-moi, je vais un peu vite. J'interviens dans le département architecture des systèmes d'information de l'INSA de Rouen. Et donc j'assure un enseignement en génie logiciel. UML, etc. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, on a mis en place un exercice qui s'appelle l'exercice fil rouge, qui permet de créer différentes situations de collaboration dans le cadre d'un projet de développement logiciel. Je vais vous expliquer un peu en quoi consiste cet exercice. Cet exercice, donc on l'a mis en situation dans une salle, alors qui ne s'appelle pas le bocal. Je suis désolé, au moment où les diapos ont été publiés, je ne savais pas que je ne pouvais pas utiliser ce terme. C'est le terme interne à l'INSA, mais c'est plutôt un learning lab. Hein. Voilà. Et par la suite, je vous parlerai donc de la réciprocité des rôles. Hein. Qui est l'un des faits que l'on a besoin d'une salle comme un learning lab pour vraiment permettre aux étudiants de se retrouver par rapport à leurs différents équipiers. Voilà. Et enfin, on parlera de contextualisation. L'espace permet de contextualiser ce que font les étudiants. Avant de continuer, juste pour signaler que donc la salle dont on va parler fait partie du Learning Lab Network, pour rendre honneur à ses fondateurs, ici présents avec nos ambassadeurs, et fait partie d'un réseau d'aujourd'hui de combien, je ne sais plus combien de... 70 salles. Voilà. Bien, donc... L'activité pédagogique, fil rouge, relève d'une pratique de type projet de nature authentique. Hein. C'est un peu le. Voilà, je dirais que c'est le type de projet le plus proche dont je puisse rapprocher cet exercice. Alors. Pourquoi ce titre, balançoire ? Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces images qui sont très très répandues dans le domaine du génie logiciel ou de la gestion de projet, où vous avez, je ne sais pas si on voit la souris, mais en gros, ça c'est le système idéal, qui n'est pas forcément exprimé, mais c'est celui qu'il faudrait faire. Hein. Puis après, ici, vous avez ce que le client imagine avoir besoin, ce qui est différent du système idéal dont il a besoin, c'est ce qu'il imagine avoir besoin. Ensuite, c'est ce qu'il va exprimer, évidemment, entre ce dont il a besoin, parce qu'exprimer ce besoin, c'est très compliqué, et donc il va exprimer ça. Le prestataire, lui, va évidemment ne pas du tout comprendre ce qu'il a exprimé, il va croire que c'était ça le besoin, et puis le réel étant ce qu'il est, eh bien, entre ce qu'il a compris et ce qu'il va faire, ça va donner ça. Donc on peut imaginer évidemment la forte déception du client lorsqu'il se retrouvera avec ça alors qu'il avait imaginé ça et qu'en fait il avait besoin de ça. Voilà. Et donc vraiment cet exercice fil rouge, je m'écarte un tout petit peu de l'utilisation de la salle, mais bon, c'est important pour bien comprendre. Le but, c'est de justement faire que on ait le moins de distorsion possible entre toutes ces transitions-là, entre ce dont on a besoin, ce dont on croit qu'on a besoin, ce qu'on exprime, ce que comprend l'autre et ce que fait l'autre. Voilà. Et donc, évidemment, on se retrouve dans des situations de collaboration multiples, tout au long de ce parcours. Et la salle qu'on va utiliser pour gérer ces situations de collaboration, évidemment, a une importance. Et l'architecture des salles Learning Lab, là, franchement, moi, je suis vraiment tombé dedans par hasard. Au fur et à mesure, je me rends compte qu'effectivement, elle est tout à fait adaptée à ce genre de situation. Voilà. Donc, très rapidement, pour faciliter le dialogue entre le client et le prestataire, excusez-moi, pour que le client soit capable de mieux d'avoir une image de ce dont il a besoin le plus proche possible de la réalité. Hein, on passe par des techniques de créativité. Pour que le prestataire comprenne au mieux ce dont a besoin le client, on va mettre en œuvre des techniques de maïeutique. Et enfin, pour que ce qu'a compris le prestataire soit mis en œuvre de manière relativement proche de ce qu'il souhaitait, on passe par des techniques de gestion de projet, d'agilité. Hein. Donc autant de techniques hein, qui vont créer des situations de collaboration et pour lesquelles on a besoin d'espace adapté. Voilà, et le tout piloté par un processus, mais ça je dirais que dans le cadre d'aujourd'hui, c'est pas vraiment le plus important. Voilà, donc ici, ça, c'est une vue schématique de la salle réalisée par ma fille sous Sims, en 5 minutes, parce que j'avais pas de vue schématique de la salle, donc je lui ai dit, fais-moi une vue schématique, et voilà, en 5 minutes, ce qu'on fait. Donc, très schématique. Hein. Alors, les principaux éléments qu'on va retrouver dans une salle, hein, donc c'est une interprétation INSA du Learning Lab, il n'y a pas tout ce que exige la charte Learning Lab, mais bon, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, donc, alors on garde quand même la dimension, professorale, avec deux vidéoprojecteurs qui peuvent diffuser une image à toute la salle, hein, avec sur deux murs différents, parce que les gens, évidemment, étant positionnés de manière un petit peu aléatoire, ils peuvent pas tous voir le même angle. On a donc très important hein, dans le cadre de notre application des tables sur roulette hein, qu'on peut bouger facilement. Alors là sur le facilement, je pense que ayant vécu comme pendant 2 ou 3 ans la recomposition de la salle avec les étudiants, je pense qu'on peut encore faire mieux. Hein, ça reste encore compliqué hein, de bouger les tables dans une salle. Les chaises par contre, ça bouge bien, ça c'est bien. Et ensuite, un tableau mural hein, pour des activités de deep brainstorming, des tableaux, des flipcharts, hein, des tableaux blancs. Voilà, il y en a 4, je crois, dans la salle. Et puis des écrans, alors qui sont ici fixés parce que dans Sims, on peut pas les faire bouger. Mais c'est très important, c'est des tableaux qui sont sur qui sont sur roulettes. Donc on peut emmener un peu partout. Voilà. Donc voilà hein, les éléments, le jeu de Lego qu'on a à notre disposition et qu'on va recomposer en fonction des séances. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça évolue avec le temps. C'est-à-dire que l'usage, finalement, avec les étudiants, au fur et à mesure qu'ils apprennent, modifie la façon d'utiliser les éléments, se les approprier, et ça, c'est ça le plus intéressant, en fait. Voilà. Voilà, un élément pratique également, hein, vraiment dans le pratique. Les tables sont alimentées par du 220, ce qui est très important parce que les étudiants ont souvent des portables qui ne tiennent pas la charge. Donc, ça, c'est super important. C'est vrai que ça fait partie des choses. Hein, moi, je souhaite que les étudiants utilisent un peu les outils qu'ils veulent. Et y a des fois, ils préfèrent utiliser un ordinateur qu'un tableau blanc. Eh bien, soit. Mais pour ça, pour qu'ils aient cette liberté-là, il faut qu'ils aient le 220. Ça, c'est un truc capital hein, quand vous faites ce genre de choses. La moitié des étudiants ont des machines qui ne marchent pas, qui ne tiennent pas plus de 2 minutes sans électricité. Voilà. Donc, avec cette salle, hein, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va l'utiliser pour différents exercices. Alors, une illustration, le brainstorming. Hein, je pense que tout le monde connaît ce que c'est qu'un brainstorming. Un brainstorming, je le présente, c'est assez intéressant et facile de comprendre comment on peut s'approprier, en fait, cette pratique. Le brainstorming, par défaut, ce qu'on présente, vous vous mettez sur un tableau, un tableau mural, et puis vous projetez vos idées dessus, vous les organisez, etc. Voilà. Donc, il y a des groupes qui font ça. Le problème, c'est que d'un tableau mural, j'en ai qu'un. Et en gros, il n'y a que 2 équipes qui peuvent le faire. Au fur et à mesure, donc après, ceux qui ont été moins rapides, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe aussi, ça permet aux gens de se motiver, ceux qui étaient moins rapides, ils ont un tableau blanc. Voilà, ils ont pas un mur, ils ont un tableau blanc pour exposer leurs idées. OK, soit. Et puis, il y en a d'autres qui avaient plus une expérience avec les histoires de post-it. Là, il y en a d'autres qui ont préféré coller des post-it sur le mur. Voilà, c'est un troisième usage. Hein, il faut une salle qui soit ouverte, qu'on puisse utiliser librement. Voilà, c'est un troisième usage. Et puis, il y en a d'autres qui ont l'habitude d'utiliser Trello. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil de gestion de projet très orienté et Kanban, qui utilisent Trello. Ils posent leurs idées sur l'écran et puis ils mettent différentes couleurs, etc. Voilà. Donc, vous voyez, à travers un seul exercice, faire un brainstorming pour essayer de mieux comprendre ses besoins, si on replace dans le contexte du fil rouge, là, eh bien, avec un seul exercice, on se retrouve avec l'usage de différents outils de la salle qui sont mis à disposition dans la salle, et sans pour autant que au départ on ait pensé à tous ces usages. Hein, c'est les étudiants qui, ouais, ok, j'ai ça à faire, je vois ce que, ok, je veux faire ça, ben, j'utilise tel outil. Voilà. Hein, c'est ça l'intérêt de cette salle aussi. Hein, c'est ce que je voulais souligner, hein, à travers cette démonstration. J'ai 5 minutes de retard ou il me reste 5 minutes ? D'accord. Non, parce que d'habitude, je suis toujours en retard, donc c'est pour ça que... Ok. Ok, alors, deuxième élément un petit peu plus technique, c'est la difficulté avec cet exercice fil rouge, là, où on leur fait développer un projet, c'est qu'ils développent le projet sous deux angles. Ils développent le projet sous l'angle « je suis le client qui a un besoin et qui veut le faire réaliser par une autre équipe ». Et la même équipe va développer aussi le projet d'une autre équipe pour faire. Donc, dans le vocabulaire de gestion de projet, ils sont maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Et tout ça dans un même semestre. Hein, ils ont en gros une dizaine de semaines pour faire ce projet avec une heure et demie par semaine en séance. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose... ils se mélangent énormément les pinceaux entre leur rôle de MOA et MOE. Ça a l'air tout bête pourtant, mais... Les étudiants se mélangent énormément les pinceaux. Et ils ne savent jamais, ils se disent, oui, mais là, attendez, je suis en train de faire le projet des autres ou je fais mon projet. Voilà. Donc, ils sont très, très perturbés par ça. Et vraiment, le fait d'avoir une salle avec une configurable, en situant bien où se trouve chaque rôle, ça a permis de diminuer ce genre de difficultés que pouvaient rencontrer les étudiants. Hein. Voilà, donc encore une fois, la salle, c'est très important. Hein. Là, c'est juste, je repréciser. Hein, il faut bien voir qu'un étudiant, il faut vraiment se mettre dans la situation, ils ont 10 semaines, ils ne connaissent pas du tout la gestion de projet. Et ils sont quand même plongés dans plein de situations de collaboration différentes. D'une part, ils collaborent avec leur équipe. Hein. Un individu, il collabore avec son équipe pour travailler sur une idée. Ensuite, au sein de cette équipe, il va collaborer avec une autre équipe pour la mettre en œuvre. Hein. Donc ça fait vraiment plein de situations. C'est pour ça que c'est important de s'y trouver. Et donc, cette configuration de salle, évidemment... modulable, hein, ça permet d'une part, alors c'est tout bête, hein, mais c'est des choses qui permettent aux étudiants de s'approprier. Quand ils ont à travailler au sein de leur équipe, ben, ils sont sur une seule table. Hein. Quand ils ont à travailler avec une autre équipe, ils sont sur un îlot de deux tables. Et puis on a un petit système d'icônes, hein, qui permet de rappeler, voilà, dans quel type de rôle il se trouve à un instant T. Voilà.
2 minutes.
Voilà, c'est fini. Hein. Je crois que j'ai dit l'essentiel.
Hein. Super, merci voilà. Frédéric. J'ose même pas dire qu'on a le temps, parce que on n'a pas le temps, mais on va quand même l'apprendre. Le temps pour une question. Ah, voilà. Isabelle.
Très court, et c'est même pas une question. J'ai eu la chance et l'avantage de travailler dans cette salle-là avec mes collègues, soit VP, soit correspondant numérique pour l'INSA. Et la présence de l'électricité, enfin du 220 sur les tables, est de fait absolument essentielle, y compris pour les enseignants qui ont travaillé de droite et de gauche et qui arrivent avec un portable qui, même s'il tient la charge, est complètement déchargé.
Bon, vu que c'était court, on a le temps pour une. Monsieur l'ambassadeur.
Oui, c'est juste pour conclure. Je pense qu'il y a une dimension qui a été importante dans ces trois... Une question que je me pose par rapport à ces trois initiatives, c'est comment ces initiatives se parlent-elles? Comment vont-elles s'alimenter l'une des autres? Et comment vont-elles créer un véritable territoire apprenant? Derrière ça, c'est comment le dôme va dans les universités, va dans les EHPAD, etc. Comment dans la salle de l'INSA, je veux dire, si je suis un citoyen, je peux aller. Comment Canopée sort donc de ce, je veux dire, je vais te provoquer un peu de sa sphère éducative, secondaire, etc., pour s'ouvrir au monde. Et je pense qu'il y a un enjeu là qui est très, très important, parce qu'il y a un risque français qu'on connaît bien, surtout dans ce secteur-là. Il y en a deux. C'est un, la non-sortie de l'innovation, et deux, le syndrome du millefeuille. Le syndrome du millefeuille, c'est j'ai une couche de canopée, j'ai une couche de Learning Lab, j'ai une couche de Living Lab, et vous avez déjà essayé de manger un millefeuille ?